Nous nous sommes donc mis en devoir d'examiner attentivement les terribles croquis, constatant qu'ils confirmaient parfaitement les nôtres. Puis nous sommes revenus sur nos pas pour rejoindre l'espace circulaire, selon le chemin que nos innommables prédécesseurs devaient avoir parcouru deux fois avant nous. L'autre passage menant à l'abîme devait se trouver au-delà. Il m'est inutile de relater en détail notre voyage durant lequel nous avons continué à semer des bouts de papier, puisqu'il n'a fait que retracer celui qui nous avait amenés jusqu'à ce cul-de-sac, sauf que nous nous en sommes tenus au niveau les plus bas, empruntant parfois même des couloirs souterrains. De temps en temps, nous pouvions voir certaines empreintes assez troublantes dans les débris sur lesquels nous marchions, et dès que les odeurs d'essence n'ont plus été perceptibles, nous avons, une fois de plus, pris conscience de cet autre relent hideux et plus tenace. Après que notre chemin se soit écarté de celui que nous avions suivi précédemment, nous avons parfois balayé rapidement les murs du rayon de notre torche, notant dans tous les cas la quasi-omniprésence des sculptures qui semblaient décidément avoir été la principale forme d'expression des anciens. Vers 21h30, pendant que nous traversions un couloir voûté, dont la surface de plus en plus glacée semblait être sous le niveau du sol et dont le toit ne cessait de s'abaisser au fur et à mesure que nous avancions, nous avons vu la lumière du jour droit devant et avons pu éteindre nos torches. Il nous est apparu que nous arrivions en vue de ce grand espace circulaire et que nous ne devions plus être très loin de l'air libre. Le couloir se terminait sur une arche étonnamment basse pour ces ruines mégalithiques, mais avant même de la franchir, nous avons pu voir ce qui s'étendait au-delà. C'était un prodigieux cercle dégagé d'environ 70 mètres de diamètre, jonché de débris et bordé d'arches semblables à celles que nous nous apprêtions à franchir, éboulées pour la plupart. Sur les murs, chaque espace disponible était couvert de sculptures formant une spirale de proportions épiques et, malgré les ravages du temps dans cet espace à ciel ouvert, d'une splendeur artistique dépassant largement tout ce que nous avions vu jusqu'à présent. Le sol encombré était recouvert de glace, et le véritable fond devait se trouver bien plus bas sous cette couche. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable dans cet endroit, c'était encore la rampe de pierre titanesque qui, évitant les arches en un virage brutal vers l'extérieur, remontait en spirale le long de l'incroyable mur cylindrique, à la manière inverse de celle qui escaladait les monstrueuses tours ou ziggourates de l'antique Babylone. Seule la brièveté de notre survol et la perspective qui confondait cette rampe et le mur intérieur de la tour nous avaient empêchés de remarquer cette structure depuis le ciel, raison pour laquelle nous avions cherché un autre accès au niveau subglacial. Peabody aurait peut-être été capable de nous dire quelle était la technique qui lui permettait de tenir debout, mais Danforth et moi ne pouvions rien faire d'autre que nous émerveiller. Il y avait ça et là des encorbellements de pierre et des piliers massifs, mais tout ce que nous voyions ne semblait pas adapté à la fonction qu'il remplissait. Malgré son exposition aux intempéries, le tout était remarquablement bien préservé jusqu'à l'actuel sommet de la tour, dont la masse avait protégé les sculptures murales les plus bizarres et les plus inquiétantes. Alors que nous entrions dans l'angoissante pénombre de ce monstrueux cylindre, âgé de 50 millions d'années et probablement la structure la plus ancienne sur laquelle nous avions jamais posé les yeux, nous avons constaté que les parois portant les rampes s'élevaient jusqu'à une hauteur vertigineuse de 20 mètres, ce qui, à en juger par notre reconnaissance aérienne, signifiait que la couche de glace à l'extérieur mesurait près de 12 mètres d'épaisseur. En effet, le gouffre béant que nous avions vu depuis l'avion était situé au sommet d'un amas de maçonnerie éboulé de 8 bons mètres, protégé sur les trois quarts de sa circonférence par les hauts murs d'une autre rangée de ruines. D'après les sculptures, la tour se dressait à l'origine au centre d'une immense place circulaire et devait mesurer jusqu'à 200 mètres de haut, avec un empilement de disques horizontaux près de son sommet et une rangée de flèches en forme d'aiguille sur son rebord supérieur. De toute évidence, l'essentiel de l'édifice s'était effondré vers l'extérieur plutôt que l'intérieur, ce qui est une chance car sinon la rampe aurait pu s'écrouler à son tour et obstruer ainsi l'intérieur. Néanmoins, elle avait visiblement souffert des intempéries et au milieu de toute cette dévastation, les arches du fond semblaient avoir été déblayées récemment. Un moment nous suffit pour en conclure que c'était bien par là que les autres étaient descendus et que ce serait la voie idéale pour que nous fassions de même, malgré la longue piste de papier que nous avions semée ailleurs. L'ouverture de la tour n'était pas plus éloignée des contreforts et de notre avion que le grand bâtiment par lequel nous étions entrés, et toute autre exploration des niveaux souterrains que nous pourrions entreprendre aurait donc lieu dans cette zone. Curieusement, même après tout ce que nous avions vu et supposé, nous envisagions encore des voyages ultérieurs. Puis, alors que nous nous frayions un chemin sur le sol jonché de débris, nous avons aperçu quelque chose qui nous a fait oublier toute autre considération. Il s'agissait d'un groupe de 3 traîneaux soigneusement stationnés à l'abri dans l'angle de la rampe le plus éloigné et que celle-ci nous avait caché jusqu'à ce moment. C'étaient les traîneaux qui avaient disparu du camp de Lake, portant les marques d'un rude voyage. Ils avaient sans doute été tractés sur de grandes étendues de maçonnerie non recouvertes de neige et portés à bout de bras au-dessus des portions impossibles à négocier. On les avait chargés et harnachés soigneusement et intelligemment, et leur contenu ne nous était que trop familier. Le four à essence, des réservoirs de carburant, des sacoches à instruments, des boîtes de conserve, des bâches qui étaient visiblement bourrées de livres et d'autres dont le contenu était moins facile à deviner. Tout ceci provenait de l'équipement de Lake. Après ce que nous avions trouvé dans l'autre salle, nous étions relativement préparés à une telle découverte. Mais nous avons reçu un choc bien plus grand lorsque nous sommes allés défaire la bâche dont les contours nous avaient particulièrement troublés. Apparemment, Lake n'avait pas été le seul à vouloir récolter des échantillons, car il y en avait 2 là, sous cette bâche, tous 2 raidis par le gel, parfaitement préservés, raccommodés, avec des toiles plâtrées sur les endroits qui avaient été blessés, et emballés avec une évidente minutie pour éviter tout autre dommage. Là, sous nos yeux, reposaient les cadavres du jeune Jedney et du chien disparu.